Bonjour.
C'est pas courant d'avoir le même prédicateur deux dimanches de suite, et je vous rassure, je me lance pas dans une course au record. Simplement, vous avez compris que la semaine dernière, j'ai eu à cœur de partager une méditation en rapport avec l'actualité. Or, il s'est fait que le message que je devais donner dimanche dernier, vendredi soir, il était prêt. Alors je me suis dit, autant le délivrer aujourd'hui. Et donc, en accord avec Colin, je veux dire, on a changé le programme. Alors, les aléas de la technique font que le PowerPoint va démarrer un petit peu en retard, parce que, je sais pas, je pensais l'avoir mis sur la clé, mais il n'y est pas, donc le temps qu'on refasse une copie à partir de l'ordinateur. Mais donc, le message qui était prévu dimanche dernier, c'est la suite de l'étude de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 5 à 17. Dans cette épître, Paul écrit à l'église de Colosse pour combattre de fausses doctrines. Il dénonce de faux enseignements et il profite de cette lettre pour enseigner, corriger, encourager, exhorter. Et il rappelle notamment quelques points fondamentaux. Au chapitre 2, verset 6, « Puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. » Au verset 20, « Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. » Et au chapitre 3, excusez le marathon un peu, versets 1 et 2, « Après avoir dit « Vous êtes morts avec le Christ », il nous dit « Vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Merci. Dans les versets que nous venons de relire rapidement, Paul fait clairement une distinction entre ce qui était notre vie d'avant notre conversion et ce que Dieu attend des enfants qu'il s'est choisi et qu'il a racheté par le sacrifice de son Fils Jésus. On pourrait résumer cela en disant faire la différence entre les réalités d'en bas et les réalités d'en haut, entre ce qui est charnel et qui relève de notre ancienne nature, et ce qui est spirituel et qui a trait à notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Toujours au chapitre 2, verset 11, « C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été enseveli avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la présence de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Les termes « mort »,« enseveli », »,« dépouillé », »,« circoncis » expriment l'idée que nous sommes appelés à renoncer à ce qui était notre vie d'avant. Par contre, le mot « ressuscité » nous parle d'une vie nouvelle, régénérée, d'une autre nature. Et vous allez voir que ce sont deux aspects qu'on trouve dans le chapitre 3, où Paul va d'abord nous dire ce à quoi nous sommes appelés à renoncer, ensuite ce à quoi nous sommes appelés à faire pour plaire à Dieu, et en conclusion, il nous donnera le moyen de progresser et de tendre vers ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ferons donc la lecture dans Colossiens 3 à compter du verset 5. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sorteraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'une ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Dans cette première partie, donc, Paul nous dit « Faites donc mourir ce qui appartient à la terre. » Alors, je ne me lancerai pas dans une étude détaillée de tous les termes qui sont marqués en caractère gras à l'écran. J'en commencerai trois, si vous voulez bien. Paul commence par dénoncer ce qui est traduit par « l'inconduite » dans ma version et qui désigne clairement l'inconduite sexuelle. Et on peut se demander si Paul nous parle ici simplement de débauche, d'une sexualité débridée, de dérive. Mais je crois que, bien sûr, Dieu désapprouve ces pratiques. Mais je ne pense pas que ce soit que de cela que Paul veuille parler. Dieu nous a créés hommes et femmes, et donc la sexualité a été voulue par Dieu. Mais elle a été voulue dans un cadre bien précis, qui est celui du mariage. L'alliance d'un homme et d'une femme, un engagement irrévocable, la promesse de se porter mutuellement assistance dans les bons comme dans les mauvais jours, et d'offrir aux enfants un cadre stable. Nous sommes très loin de ce que le monde propose et préconise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt multiplier les expériences, s'engager pour une durée limitée, avec la possibilité de revenir sur la parole donnée, sans drame, puisque c'était convenu d'avance, du moins c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Que de souffrance, au contraire, on le voit bien. Et il ne s'agit pas ici tant de condamner les gens qui vivent ces situations, mais de les mettre en garde contre ce qui les attend. Le monde nous dit que c'est sage, avant de s'engager dans une relation, que d'essayer, pour voir où on va, comme si on achetait une voiture ou un nouveau costume. Ce n'est pas ce que nous dit la parole. Parce que c'est souvent un âge où quand on s'engage comme ça, on est jeune, et quand on est jeune, on se donne sans compter, et puis on s'aperçoit qu'on est laissé, on est abandonné un jour ou un autre. Heureusement, ce n'est pas toujours comme ça, mais combien de gens vivent ça? Simplement pour ne pas avoir respecté le cadre donné par Dieu. Combien de personnes qui finissent seules leur existence, qui se retrouvent dans la précarité sociale aussi, avec des difficultés pour joindre les deux bouts, parce que quand on est séparé, ben, y a des tas de soucis qui arrivent. Voilà ce qu'il en coûte, entre autres, de vouloir s'éloigner de la volonté de Dieu. Combien d'enfants, vous avez dû entendre ces chiffres aussi, comme moi, dans des études, ne vivent pas avec leurs deux parents. Et ont l'impression que c'est la norme de vivre avec simplement maman ou papa ou en alternance. J'avoue que je tremble quand je pense à tout cela avec les générations. On n'est qu'à la première génération qui connaît ça, comment ça va aller de génération en génération. l'inconduite, ne pas suivre ce que Dieu veut, voilà certaines conséquences. Un autre point que je voudrais relever aussi, c'est ce que l'apôtre Paul appelle les passions incontrôlées, ce que je pourrais appeler aussi les addictions. Quand la passion, c'est quelque chose qu'on subit, hein, on est pris par quelque chose, l'addiction aussi. Alors quand on utilise le terme d'addiction, on pense à l'alcool, on pense à la drogue, on peut penser au sexe. Mais il y a aussi une addiction nouvelle qui est présente depuis peut-être 10 ou 15 ans, c'est l'addiction aux nouvelles technologies. Et j'ai entendu que beaucoup d'hommes sont victimes de cela, et je ne me considère pas comme étant à l'abri. L'hyperconnectivité qui nous met en relation avec tout le monde, mais qui en même temps nous sépare de ceux qui sont juste à côté de nous. Le travail qui, via nos ordinateurs, entre chez nous à toute heure. Cette sensation qu'on peut tout avoir tout de suite. Il suffit de « Ok Google », on pose la question, on a la réponse. Quelqu'un nous écrit, on répond, instantanément. Et en fait, on est prisonnier. On est pris dans un engrenage. On perd le contrôle de notre temps. Et je me dis que si vous sentez ça, si vous sentez bien, parce que on voit bien qu'à certains moments, votre épouse vous le fait constater, par exemple. Vos enfants vous rappellent un peu à l'ordre. Puis on sent bien quand même qu'on n'a plus le temps d'eux. Ce sont des signaux qui devraient nous alerter. Christ nous a rendus libres. Ce n'est pas pour nous remettre sous le joug de certains enchaînements, comme celui que je viens de préciser. Un troisième point que je voudrais souligner aussi, parce que Paul insiste là-dessus, c'est la soif de posséder. Il nous dit que c'est une idolâtrie. Et en préparant cette méditation, je repensais à la parabole de l'homme riche, dans Luc 12, qui avait fait de grandes récoltes, et qui se disait, mais comment je vais faire pour ranger toute cette récolte? Donc je vais agrandir mes greniers, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un chef d'entreprise, il a déjà tout un plan. Il se projette déjà à 4 ou 5 ans. Et puis il se dit, et puis voilà, une fois que j'aurai accumulé tout ça, je pourrai me reposer. J'aurai des années de tranquillité devant moi. Et Jésus lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et le verset 21 précise, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Personnellement, je comprends ces versets comme, non pas comme une condamnation des richesses en elles-mêmes, mais de la façon dont on les gère. Vous vous souvenez de la parabole des talents? On reçoit tous quelque chose. Certains sont des dons, d'autres c'est plus de facilité matérielle. Il faudrait être naïf pour croire qu'on est meilleur que les autres et qu'on reçoit plus pour le conserver. Les talents, chacun devra rendre compte de la façon dont il les a utilisés. Je pense que ça s'adresse aussi à nos biens matériels. Nous aurons à rendre compte un jour de la façon dont nous les avons gérés. Toute cette liste qui est encore à l'écran, je crois que nous sommes tous convaincus que ce sont effectivement des choses auxquelles il nous faut renoncer. Que ces comportements qui sont dénoncés rendent les relations entre les hommes plus difficiles, plus conflictuelles. Et pourtant, je me dis que même si nous sommes convaincus, eh bien, force est de constater que nous peinons à mettre en œuvre cela, à y renoncer complètement. Alors, j'ai rarement croisé, pour ne pas dire jamais, quelqu'un qui ait tous ses vices en même temps. Je vous rassure. Mais qui peut dire qu'il n'est pas concerné par un, deux ou trois des points mentionnés par Paul? Même si nous sommes en nouveauté de vie, eh bien, il nous arrive de retomber dans nos vieux travers. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui résiste en nous? Eh bien, l'homme naturel n'a pas complètement disparu. Paul rappelle aux Colossiens qu'ils étaient des pécheurs. Il dit, vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie, et l'empreinte du péché est encore présente. Un prédicateur dans l'église que nous fréquentions avant de venir ici dans le Nord avait eu un jour cette image qui me paraissait parlante. Il disait, mais quand donc un loup devient-il un loup? Est-ce que c'est lorsqu'il croque son premier agneau? Ou est-ce qu'il est loup dès sa naissance? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est dès sa naissance. Bon. Quand l'homme devient-il pécheur? Il est pécheur. C'est notre nature profonde. Alors, la majorité d'entre nous, nous avons été baptisés, nous sommes entrés dans l'eau, vous avez probablement été baptisés comme moi par immersion, et on veut ce symbole en général pour dire, ben voilà, le vieil homme entre dans l'eau, il disparaît, il est complètement englouti, et puis on ressort de l'eau quand même, heureusement. Et là, c'est l'homme nouveau, l'homme lavé de son péché qui ressort. Et l'un de mes anciens pasteurs, celui à qui je dois de m'être converti, entre autres, disait, mais chez moi, le vieil homme a appris à nager. C'est un constat, malheureusement, qu'on fait souvent. Et cette trace de notre homme naturel, Jean Calvin en parle aussi, et je vous lirai un extrait un petit peu long, vous m'excuserez, mais qui précise bien ce que c'est que notre nature humaine et nos contradictions. Qui d'entre nous, pendant sa vie, ne s'interroge pas sur la vie à venir et sur l'immortalité avec le secret espoir d'y participer? Pourtant, si l'on examine les projets, les délibérations, les entreprises et les œuvres de chacun, tout se limite à la terre. Cette ineptie provient de ce que notre intelligence est comme éblouie par l'attrait vain et apparent des richesses, des honneurs et des pouvoirs qui empêchent de regarder plus loin. De même, notre cœur, plein de désirs, d'ambitions et d'autres mauvaises tendances, en est tellement occupé qu'il ne peut regarder en haut. Enfin, notre affectivité est comme immergée dans les délices sensuels et paralysée par eux, au point de ne chercher son bonheur que sur cette terre. Je ne sais pas quelle image vous faites de Calvin, mais son affectivité immergée dans les délices sensuels, ce n'est pas vraiment la représentation que j'avais de Calvin. Il fait ce constat que nous sommes soumis à des règles, et il termine plus loin en disant « La conclusion est qu'il ne faut rien chercher ou espérer ici-bas qu'un combat. » Calvin nous dit que tout notre être, notre intelligence, notre cœur, nos sens sont encore plus préoccupés des choses d'en bas que des choses d'en haut, même si nous savons que c'est une ineptie. Et quand il nous dit qu'il n'y a rien à attendre ici-bas qu'un combat, eh bien on lit la même chose dans l'Épître aux Romains, où Paul dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Je pense que vous avez lu la réponse déjà. Romains 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement, donc par l'intelligence, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. » On aurait donc deux maîtres. Ça, c'est quand même assez désespérant. Mais au chapitre 8, verset 1, Paul donne une espèce de conclusion en disant, ou une conséquence en tout cas, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné, mais que nous ne sommes plus condamnés déjà. J'ai trouvé pas mal de citations, et je vous en lirai plusieurs dans cette méditation. C'est John Piper aussi, ça va faire plaisir à ma fille, qui nous décrit un peu en quoi le péché nous séduit. Et il nous dit, si nous cédons au péché, c'est parce qu'il promet, au moins à court terme, que les choses seront plus agréables. Que dois-je donc faire? Certains diraient qu'il suffit de se souvenir du commandement de Dieu nous appelant à la sainteté et d'exercer sa volonté afin de lui obéir. Donc, simplement rappeler le commandement et de dire « Bon, Philippe, tu vas t'y mettre. » Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu, donc je vais lui obéir. Et Piper de continuer, « Cependant, il manque à ce conseil un aspect primordial, à savoir la foi dans la grâce à venir. Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, je trouve le contentement dans le Christ et ses promesses. C'est précisément le sens de cette parole de Jésus, « Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif ». Et ainsi, eh bien, le péché perdra son pouvoir d'attraction. Ce n'est pas sans raison que Satan est appelé le tentateur. Il détourne notre regard de Dieu et nous incite à regarder à nous-mêmes, à satisfaire ce que nous convoitons, plutôt qu'à obéir à Dieu. Alors Paul nous met en garde sur les conséquences si nous refusons de renoncer à cette vieille nature. Colossiens 3, au verset 6, « Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. » La conséquence, c'est la colère de Dieu. J'ai trouvé cette citation de Richard Baxter, je vous connaissais pas ce personnage, c'est un théologien anglais du XVIIe siècle, qui a des mots assez radicaux pour décrire ce qu'il préconise. « Faites au péché ce qu'il vous ferait. Ne l'épargnez pas parce que lui ne vous épargnera pas. C'est votre meurtrier et le meurtrier du monde. Traitez-le donc comme on devrait traiter un meurtrier, tuez-le avant qu'il ne vous tue. » C'est assez radical, hein. Mais ça montre qu'il n'y a pas de demi-mesure à prendre. C'est Paul aussi qui déclare dans 1 Corinthiens 3 au verset 15 que la qualité de nos œuvres sera révélée au jour du jugement et il nous dit « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Alors, attention à ce que cela veut dire. « Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Est-ce que c'est ainsi qu'on a envie d'être sauvé? Ben, vous imaginez quelqu'un qui sort là, couvert de noir, je veux dire, les vêtements en lambeaux, à moitié brûlés. Lors de notre dernière réunion de quartier, chez Eric, on lisait dans le sermon sur la montagne que certains seront appelés petits au royaume des cieux et que d'autres seront appelés grands. C'est une réalité qu'il nous faut prendre en compte. Être sauvé, c'est bien, mais il y aura des petits sauvés et il y aura des grands sauvés. Alors, l'essentiel, c'est d'être sauvé, c'est sûr, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être classé parmi les petits? Alors je me suis demandé ensuite, qu'est-ce qui peut nous encourager à persévérer sur le chemin de ce que j'appellerais la sanctification? Et là encore, je vous lirai quelques témoignages. Le premier de John Piper, encore, qui dit, je l'ai déjà lu, « Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, je trouve le contentement dans le Christ et ses promesses. » Et il poursuit, « Lorsque ma soif de joie, de sens, et d'émotion forte est satisfaite par la présence et les promesses du Christ, le pouvoir du péché se trouve brisé. » Et il prend cette image, « Qui se laisserait tenter par un banal sandwich quand ses narines sont chatouillées par l'odeur d'un bon steak en train de griller sur le grill ?» C'est vrai, quand on y réfléchit, il faut être fou pour abandonner les choses d'en haut, pour ne penser qu'à celles d'en bas. L'ennemi, lui, n'a de cesse que de nous décourager, de nous dire « Regarde là, comme c'est beau, regarde comme c'est bon, rappelez-vous la tentation d'Adam et Ève. Si Dieu l'a créé, pourquoi t'en priver ?» Et puis, le découragement aussi, regarde, après X années d'année chrétienne, et moi, X commence à grandir pas mal. T'arrives encore de te mettre en colère, de manquer d'amour, de refuser de pardonner. Et malheureusement, c'est souvent vrai. Là aussi, Piper nous encourage en disant, Jésus a dit que celui qui ne lutte pas là contre la luxure n'ira pas au ciel. Il n'a pas dit que les chrétiens seront toujours victorieux. L'essentiel est que nous soyons déterminés à lutter, pas que nous affichions une réussite parfaite. Jean-Lionel, tu avais cité un jour une parole un peu dans le même esprit qui m'avait encouragé. Ce qui est attendu de nous, ce n'est pas que nous gagnions tous nos combats, mais que nous luttions, que nous ne baissions pas les bras devant le péché. Un témoignage de Charles Spurgeon maintenant. Quand je pensais que Dieu était dur, j'ai trouvé qu'il était facile de pécher. Je ne sais pas comment vous, vous imaginez Dieu, ça dépend probablement beaucoup de notre histoire, de notre chemin personnel. Moi, quand j'étais enfant, Dieu, il ne fallait pas rigoler, quoi. Je veux dire, j'ai grandi dans une église catholique, je veux dire, il fallait aller à confesse, bon, c'était sérieux, c'était le père, c'était le juge aussi, hein. On peut avoir l'impression que Dieu est dur à certains moments. Donc je reprends la citation. « Quand je pensais que Dieu était dur, j'ai trouvé qu'il était facile de pécher. Mais quand j'ai trouvé Dieu si bon, bienveillant, tellement rempli de compassion, je me suis frappé la poitrine de m'être jamais rebellé contre celui qui m'avait tant aimé et qui ne souhaitait que mon bien. » Dieu n'a pas voulu gagner notre cœur par la crainte, mais par l'amour. Ce n'est pas la même chose quand vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous mener à la baguette, ou une grand-mère qui obtient tout de vous par l'amour. Je prends cet exemple parce que je vois Philomène devant moi, et tout à l'heure tu avais ta petite fille sur les genoux, et on voit bien les rapports qu'il y a. On voit ce qu'une maman, ce qu'une grand-mère peut obtenir d'un enfant, et qu'un papa trop strict quelquefois n'obtient pas. Et puis pour nous encourager, souvenons-nous aussi que nous avons des intercesseurs auprès du Père. Jésus lui-même et le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Christ qui intercède. Et tous n'étaient pas au week-end de rentrée à Pine Ranch, c'est pour ça que je reprendrai un propos de Pierre Barito qui moi m'a beaucoup parlé aussi. Il évoquait la scène où Pierre a pêché toute la nuit, pêché avec des filets, hein. Et ils n'ont rien pris. Et au moment où ils retournent vers le bord, il y a Jésus qui les attend sur la rive, et c'est la première fois que Pierre va revoir Jésus après la crucifixion. Et donc pour Pierre, c'est quand même un moment délicat, parce que la dernière fois qu'il a vu Jésus, c'était dans la cour, et il l'avait renié trois fois. Et dans cette scène, eh bien Jésus appelle Pierre, et Pierre y va. Alors bien sûr, Pierre Barito interprète le texte, il imagine un scénario, c'est pas écrit, donc ça n'a pas force d'évangile, mais il se disait, moi mon explication c'est que, quand Jésus s'est retourné vers Pierre au moment où le coq a chanté pour la troisième fois, eh bien dans le regard de Jésus, il y avait encore de l'amour pour Pierre. Et c'est pour ça que quand Jésus a appelé Pierre, eh bien Pierre a pu y aller, parce qu'il savait qu'il n'était pas condamné. Tu disais dans ta présidence, non seulement Dieu nous a pardonnés, mais il a oublié nos péchés. Hein, c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Et moi, je me dis que je suis incapable d'oublier les choses vraiment qui m'ont vraiment blessé. Mais Dieu, lui, ne se souvient même plus de nos péchés. Ça, c'est un encouragement. Même dans toutes nos luttes. Si nous, nous sommes encore attaqués par tous ces... Comment je veux dire? Par le souvenir de nos fautes, Dieu, lui, les a oubliées. Et nous arrivons à la deuxième partie, où après avoir dit ce dont il fallait nous dépouiller, eh bien Paul nous demande de revêtir certaines qualités, ce qu'il appelle l'homme nouveau. Alors quelles sont ces qualités? Il y en a de deux types. Celle que je dirais à dimension plus personnelle, développer en nous la bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, même si ce n'est pas pour nous-mêmes que nous les développons, mais il insiste aussi sur la qualité de nos relations avec les autres, nous supporter les uns les autres, nous pardonner mutuellement. Alors je ne développerai pas ça, c'était l'objet d'un message que j'ai déjà donné au mois de septembre. Soyez en paix les uns avec les autres. Et quelque chose qui m'a interpellé davantage, soyez reconnaissants. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Dans d'autres traductions, on nous dit l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, nous savons tous que c'est le plus grand des commandements. C'est le premier des fruits de l'esprit qui est mentionné. Et Jésus nous dit lui-même qu'on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Et je me dis que Paul nous donne là un moyen d'évaluer notre état de santé spirituelle, à la façon dont nous avons des relations avec les autres. L'amour que nous portons aux autres, nous l'avons dit, hein, notamment au moment où on parlait d'un cœur pour lion, c'est le révélateur de notre état de santé spirituelle. Et là, je me pose une question que je partage avec vous. Quand nous lisons ces choses-là, est-ce que nous sommes simplement d'accord? Est-ce que nous sommes des sympathisants? Est-ce que nous sommes des adeptes? Ou est-ce que nous sommes des disciples? Nous savons que ce que Dieu cherche, ce sont des disciples. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 3, qu'il est dit que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si nous vivons de belles choses entre nous, Jean nous dit, cela peut vous rassurer sur votre état spirituel. Alors quand on parle d'amour, je pense que comme moi, si je vous demandais un texte qui parle de l'amour, 1 Corinthiens 13 bien sûr, alors je n'ai pas résisté à la tentation de vous le relire, je ne le commenterai pas, je pense que le texte nous parle de lui-même, et je voudrais le relire devant vous en disant, c'est ainsi que Dieu nous aime, et c'est ainsi qu'il nous demande d'aimer. L'amour est patient, plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, mais la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Si nous nous désespérons parfois, Dieu espère encore en nous. Il nous a rachetés, il nous pardonne. Paul développe aussi cet enseignement sur l'amour dans l'Épître aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, et ça c'est un leitmotiv dans l'Écriture, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, vraiment le modèle par excellence, celui que nous sommes appelés à suivre. Troisième partie, et on s'approche de la conclusion, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Paul nous donne ici le moyen de grandir spirituellement, se nourrir à la source de la parole. Alors vous allez dire, c'est bien un prof qui pose tout le temps des questions comme ça, mais quel texte vous citeriez si on vous demandait un texte qui nous enseigne sur la parole, même si ce n'est pas son seul objet? Alors on dit souvent, bien, il y en a beaucoup, et puis comme souvent, quand il y en a beaucoup, on ne sait pas par lequel commencer. Jean, oui. Moi, je suis allé chercher dans le psaume 119, oui. Et je vous lirai quelques versets rapidement, parce que j'ai déjà fait beaucoup de lectures. Paul nous dit que la parole inspire la sagesse. Comment le jeune homme rendra pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et là, l'enseignement est donné pour les jeunes, mais je crois qu'on, en ce sens-là, on est tout le temps jeunes. La parole instruit, nous dit Paul, au verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. On fait nos propres expériences et on doit constater qu'effectivement nous avons besoin d'être instruits par la parole. La parole avertit, elle met en lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors ce n'est pas un projecteur longue portée hein, qui nous montre les choses au loin. C'est plus l'image d'une petite bougie, comme dans le temps, qui nous éclaire juste le bout de nos pieds pour que ben on bute pas sur l'obstacle qui est là juste devant nous. La révélation de ta parole éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Au simple, hein, pas besoin d'être un érudit pour comprendre la parole de Dieu. Et enfin, Paul nous dit, la parole nourrit notre louange. C'est dans le psaume 118, cette fois que j'ai trouvé le verset 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » Et là encore, je pense qu'à la parole, à la lecture de la parole, il est bon de s'interroger. Est-ce que nous pouvons dire comme le psalmiste, « Je n'oublie point ta parole, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Cela nous interpelle sur le temps que nous consacrons à la méditation. Je vous laisserai deux pensées en conclusion, la première que nous avons déjà lue, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Et cette idée d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, elle était présente déjà dans le verset 16 auparavant. Et cela montre l'importance que Paul lui accorde. Paul nous invite à être reconnaissants pour que nous nous souvenions de ce que nous étions, d'où nous allons, peut-être de ce que nous ne sommes pas encore, mais de ce que nous avons déjà gagné. Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants? Est-ce que je suis vraiment reconnaissant? On s'habitue tellement vite aux choses qu'on reçoit. Et je pensais à cette image, il a dû vous arriver d'offrir un cadeau à vos enfants, à quelqu'un d'autre, à un de vos proches. Puis en cette occasion-là, vous avez voulu marquer le coup, quoi. Vous y avez mis du vôtre, quoi. Vous faites votre cadeau, puis vous attendez de voir. On dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la personne vous sourit, elle prend son cadeau, elle l'ouvre, elle en prend connaissance, vous dit merci. Puis 3 minutes après, elle a déjà pensé à autre chose. Chez les enfants, c'est flagrant. Un cadeau, on chasse un autre. Hein, hop, 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 faut tout ouvrir. Et puis, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça aussi, avec le Seigneur? Le jour de notre conversion, enfin, je sais pas, chacun a son histoire, mais on est vraiment reconnaissant, on prend conscience de ce qu'on est, de ce à quoi on va échapper, puis on s'habitue. Et on a besoin régulièrement de revenir à la parole, de se souvenir où nous étions et où nous sommes encore parfois. La reconnaissance, et puis le contentement aussi. Ce sont des sentiments qui sont justes vis-à-vis de Dieu et qui nous aident à entretenir notre bonne santé spirituelle. S'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux, toujours l'attente, toujours un sentiment d'insatisfaction, oui mais je suis encore comme ça ici, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment compris dans la parole de Dieu, je crois. Ce n'est pas facile à vivre tous les jours, mais je crois que là, on a encore un indicateur. Si on n'arrive pas à être vraiment reconnaissant, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque encore. C'est peut-être, comme disait Calvin, qu'on est préoccupé encore par ce que nous sommes aujourd'hui et plus que par ce que nous serons demain. Alors une fois n'est pas coutume, le dernier mot, je ne le laisserai pas à la Bible, vous m'excuserez. Même si c'est elle qui aura toujours le dernier mot, bien sûr, mais j'étais encouragé par cette citation. Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, je trouve le contentement dans le Christ et dans ses promesses. On a vraiment un effort de foi à faire, et on sait que si on en manque, on peut toujours demander à Dieu d'en déverser davantage dans notre cœur. Amen.
Alors je crois que je peux, et vous avec moi, remercier le Seigneur pour toutes ces pensées qu'il a mises dans le cœur de Philippe pour nous. Il me semble que je ne peux pas éviter ni me soustraire à tous ces bons conseils que le Seigneur nous donne. Ne pas me soustraire à ce travail d'effort, de persévérance dont il a été question dans ce chemin que le Seigneur nous réserve, mais pour lequel il nous aide et il intercède. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ce message, bien sûr, sera enregistré et qu'il puisse être tout au long peut-être de la semaine et des temps à venir nous aider pour réfléchir sur nos vies. Bonne semaine à tous.